Le réseau Cogeco vous présente Entre nous. Voici Sylvain Ménard.
Il n'y aura pas d'otages cette fois. C'est la fin de tout ce qui ne finissait pas. Tout ce qui fait du bien me fait du mal, me fait du mal. Je ne veux plus de ton amour, mais je veux te toucher à tous les jours.
Celle que vous entendez là fut sacrée découverte de l'année en 2014, auteur-compositeur de l'année en 2017 et finalement interprète féminine lors du dernier gala de la disque. C'est avec un immense plaisir que je reçois Chloé Pelgag. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
On a tellement l'impression que tu fais pas ce métier-là pour les décorations et les distinctions et pourtant, on dirait que tu es une abonnée.
Oui, quand même, c'est une drôle de chose. Là. Peut-être que c'est en repoussant le truc et en voulant s'en détacher que ça l'attire d'une certaine façon, ou je sais pas, mais... Mais ça fait, c'est une bonne tape dans le dos quand même quand ça arrive, ces trucs-là. Puis,
Forcément. Mm-hmm. Forcément. Ça fait toujours plaisir d'avoir de la reconnaissance d'une manière ou d'une autre.
Ouais.
Mais ça fait quand même pas longtemps que tu fais partie du décor. 10 ans, c'est long dans une vie, mais c'est court pour une carrière, paradoxalement.
Oui, même ma carrière, même pas encore 10 ans, en fait. Là, mais...
ben, pas loin d'eux.
Oui, je pense que mon premier album, c'était en 2013.
Ça, c'était le mini ou...
Il y a eu un petit EP avant,
ouais,
en 2012,
ça.
Genre, je pense.
Okay.
Puis c'est vraiment à partir de 2013 que j'ai commencé à faire de la tournée. Puis depuis ce temps-là, ça n'a comme jamais vraiment arrêté. Là, donc,
mm-hmm.
Je considère vraiment que ça a commencé avec le premier album. T'sais.
Qu'est-ce qui fait qu'on commence à faire de la musique puis qu'on se dit « OK, j'ai trouvé mon X, c'est là que je m'en vais ».
Je sais pas si on se dit ça exactement là, c'est comme dans mon cas, c'est juste je pense que je désirais aussi aller vers autre chose, mais la musique ça revenait toujours vers moi, puis c'est un truc pour lequel j'ai toujours eu quand même de la facilité là, tu sais, j'ai une bonne oreille, puis
ouais.
Ça, tu sais, c'est comme spontané pour moi écrire une chanson, puis c'est comme naturel, donc puis après ça, ben j'ai réussi à comme m'en servir pour me faire du bien aussi à moi-même. Puis
ouais.
C'est comme devenu une partie intégrante de ma vie. Tu sais, c'est comme ma vie sans musique, ça existe pas. Ou tu sais, ça serait vraiment comme complètement autre chose. Je serais complètement une autre personne.
Ouais.
Fait que...
Quand tu nous dis que tu allais vers autre chose et que tu revenais vers la musique, vers
ouais.
quoi allais-tu?
J'ai essayé d'étudier en cinéma. Je suis allée à l'université en cinéma.
T'as essayé d'étudier le cinéma?
Ben, ça a duré une session.
Après. C'est les études ou le cinéma qui t'intéressait plus?
j'ai grandi en Gaspésie.
Ouais.
Après, je suis allée au cégep, en théâtre, à la Pocatière.
Mm-hmm.
C'est quand même drôle. Puis ensuite, pour aller à Montréal, j'étais comme, ah, faudrait que j'aille à l'école. C'est comme dans ma tête, il fallait aller à l'école pour déménager à quelque part. Fait que je me suis inscrite en cinéma. À l'Université de Montréal. Puis je suis arrivée à Montréal, je me suis mis à quand même m'entourer de musiciens. Puis finalement, j'étais comme, ah, je pense que... En fait, j'allais en cinéma vraiment plus pour ma culture générale.
Ouais.
C'était comme par curiosité puis par intérêt, mais c'était pas pour moi un grand rêve. C'était pas comme un but ultime de devenir réalisatrice ou quelque chose comme ça. Fait que finalement, comme je disais, la musique m'a rattrapée puis je suis allée vers ça. Puis c'était naturel d'aller vers ça, tu sais.
Ouais.
C'est comme... Puis je me suis jamais dit je vais aller étudier en musique non plus parce que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant en musique quand tu sais pas vraiment ce que tu fais.
Je t'entendais en entrevue l'autre fois avec Christian Bégin, à l'émission Il y a du monde à Metz.
Oui. Ouais.
Et tu disais que tu n'avais pas de notion musicale.
Mm-hmm.
T'as pas de formation académique en musique?
Non.
Non,
tu sais, je sais pas lire la musique, je sais pas écrire la musique, fait que je développe mes propres façons de, mettons, d'écrire des lignes, de faire des démos, de partager mes idées, sauf que...
Ouais,
c'est ça, mais j'ai étudié le piano un petit peu quand j'étais petite, là, comme...
Mm-hmm.
Mais ma prof de piano, envers qui je serai toujours reconnaissante parce que finalement, ça a été encore plus une amie
ouais.
qu'une professeure.
Mais mon étonnement est total parce que dans ta musique, on sent qu'il y a... C'est tellement bien arrangé, c'est bien orchestré.
Oui.
Il y a quelque chose, il y a une cohérence là-dedans.
Ben pour
Le
ça,
fait
j'ai...
que tu n'aies pas de lettre musicale, ça me jette par terre.
Ben, tu sais, il y a la partie arrangement aussi. J'ai travaillé beaucoup avec mon frère dans les dernières années sur les deux premiers albums. Puis... je pense que pour le reste, ce que je fais, c'est comme intuitif.
Mm-hmm.
Je pense que j'ai une bonne intuition, puis j'ai une très bonne oreille, tu sais, sans avoir l'oreille absolue, j'entends des choses. Tu sais, je suis comme, c'est naturel pour moi là, d'entendre comme d'être capable d'arranger un peu, faire des arrangements de voix, faire des.
Ça arrivait vite, ça? Le sentiment justement que tu avais une facilité pour ça.
Ouais, je pense que j'ai toujours su que j'avais quand même une facilité en musique, dans le sens où, tu sais, dans un camp de vacances, quand tout le monde essayait de chanter, chanter un peu faux, ben moi, je chantais juste, puis ça me complexait, en fait, de chanter juste, parce que je voulais chanter faux comme tous mes amis, parce que je trouvais ça cool de chanter faux.
Ah non, pas le syndrome de l'imposteur.
Ouais, ben, fait que là, j'étais comme, j'essayais de chanter un peu mal, ou je chantais pas, en fait, parce que... ça m'intimidait beaucoup de ce véhicule-là, en fait, qui est la voix. Là, c'est tellement intime, quand même. Le chant, là, c'est comme... C'est genre l'instrument de ton corps, puis c'est l'instrument le plus intime qu'on peut avoir.
Il y a la musique et il y a l'écriture. La première fois que j'ai entendu parler de tes textes, c'était sur une émission de radio en anglais. C'était Jim Corcoran qui expliquait ta poésie aux anglophones. L'émission que Jim animait sur la radio publique, c'était ça. Et j'ai entendu des mots en anglais qui expliquaient tes textes en français, puis je me disais, quel bel univers. Mais c'est un univers singulier, l'écriture pour toi. Ça, est-ce que ça arrive en même temps que la musique, tout ça? Tu commences à t'intéresser à l'écriture à peu près au même moment?
Ouais, pas mal au même moment. En fait, tout est venu un peu en même temps. Comme, tu sais, moi, j'ai pas appris à chanter ou à jouer du piano en faisant des covers, tu sais, ou des reprises, là. J'ai appris à jouer du piano puis à chanter en écrivant des chansons. Donc, à écrire en écrivant mes propres chansons. Donc, tu sais, au début, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, là. Tu sais, ma voix est un petit peu pognée. Mon jeu de piano, c'était moins élaboré. Puis, tu sais, mon écriture était plus naïve, peut-être. Puis, tout ça, c'est ce qui est beau là-dedans, c'est qu'à force de le faire, puis de. Tu sais, tu commences à saisir un peu ce qui fait écho en toi. Puis.
Oui.
La façon de véhiculer, puis ça s'est vraiment tout développé comme ensemble, tout ça.
Et quand on regarde les goûts musicaux de Cléo Pelgag, ça va large.
Ouais.
Ça part de, tu sais, il y a Miles Davis d'un côté, puis de l'autre côté, il y a Gentle Giant. Ouais. Puis entre les deux, tu peux avoir du jazz serbo-croate.
Ouais. Mais quand j'étais ado, j'aimais vraiment le rock progressif, là, genre Gentle Giant.
Mais c'est pas de ton âge, ça.
Ben, c'est pas de mon âge, mais en même temps, je veux dire, la musique, c'est comme... La bonne musique, c'est intemporel, là.
Ouais, je suis content de te l'entendre dire. Sauf qu'en même temps, ça fait pas partie du courant de quelqu'un qui a moins de 30 ans d'écouter du progressif, ou même du Miles Davis.
Ben, tu sais, quand... Je pense que les gens qui ont un grand intérêt pour la musique s'intéressent, à un moment donné, s'intéressent à quelque chose de plus large que simplement ce qu'ils entendent...
Non, tout le monde n'écoutera pas Miley Cyrus en même temps.
Non, c'est ça.
C'est clair. Sauf que toi, vraiment, on voit que t'as une ouverture qui est particulière.
Oui, j'ai toujours eu cette ouverture-là, je pense. C'est comme, je me suis jamais dit, mettons, je connais pas ce chanteur-là, comme, il est pas connu, fait que je l'écoute pas, tu sais. Mm-hmm. Moi, j'étais plutôt attirée vers ça, en fait. J'étais attirée vers les choses que je connaissais pas. Puis, tu sais, comme, j'aimais découvrir. C'est comme le meilleur sentiment du monde de découvrir un album que tu connais pas puis qui va faire partie de ta vie pour toujours après.
Ouais.
Là, ou qui va, comme, marquer une empreinte, comme, sur un moment précis de ta vie, tu sais. C'est tellement précieux, ça, là. C'est comme, tu sais, hier, je suis allée voir le show de Carquaton au Metropolis. Puis, j'écoutais ça. Moi, j'écoutais Carquois au secondaire aussi. J'écoutais beaucoup ça. Puis, là, il y avait des chants. Ça fait... Il y a 10 ans, j'avais vu ce spectacle-là au Grand Théâtre de Québec. Puis là, il faisait des tunes de Carquois, puis j'étais comme... Tu sais, ça me ramenait directement à des moments de moi dans mon école secondaire avec mes écouteurs.
Alors que ça aurait pu être une opération très dangereuse, parce que le temps embellit les choses des fois.
Oui.
De retrouver ça, tu aurais pu être très déçu.
Ouais, c'est vrai, mais comme... Là, ça me faisait vraiment quelque chose comme, tu sais, j'étais émue, là, tu sais, de réentendre ces chansons-là que j'ai pas, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté les albums, tu sais, j'ai arrêté d'écouter ça un petit peu à un moment donné. Mais je trouvais ça vraiment comme émouvant, tu sais, il y a peu de choses dans la vie, là, qui te ramènent à un moment aussi directement. C'est comme très puissant, la musique, dans ce sens-là. Tu sais, la musique, les odeurs, tu sais, comme une odeur qui te rappelle ton enfance, c'est l'odeur du pain, parce que ton père faisait du pain, mettons.
Ouais.
Tu sais, c'est comme ancré en soi. C'est encore plus qu'une photo, tu sais. Tu vas voir une photo, puis ça va faire « je me rappelle pas de ça, mais... »
Je pense que la musique, ça a été inventé pour ça. Pour avoir des repères, pour avoir des souvenirs.
Peut-être.
J'ai cette impression-là. Quand tu, on parlait de tes goûts éclectiques tantôt, Clopelgag, j'ai tendance à croire aussi, en lisant des entrevues, que tu fais confiance aux gens pour avoir le même faire monde du même éclectisme. C'est-à-dire que les gens, on peut leur en proposer bien plus qu'on le pense. Les formules, t'as pas l'air très prise avec ça.
Je pense que le monde sont plus intelligents que ce que les médias de masse leur laissent croire, en fait. Puis je trouve ça vraiment comme déplorable aussi qu'on... à plein de niveaux, là, tu sais, en politique, là, tu peux avoir des gens qui répètent le même mensonge pendant des années. Puis il y a des gens qui vont y croire, même si on a fait preuve du contraire. Mm-hmm. Tu sais, même si on a comme dévoilé la vérité derrière ces mensonges-là. Fait que, sauf que je pense qu'à force d'être exposé, en fait, à un genre de nivellement vers le bas, comme c'est ça qui fait que ça nous appauvrit, tu sais. Ouais. C'est comme moi, je le sens, là, quand je regarde, des fois pour relaxer, je regarde des séries un peu mauvaises, là, sur Netflix ou comme des vieilles séries de mon adolescence. Je suis comme, ah, ça me rappelle des souvenirs, mais tu sais, je sais que je suis consciente que c'est pas bon, tu sais, pour autant. Puis là, tu sais, je me sens pas au maximum de mes capacités intellectuelles quand je regarde ces choses-là, tu sais, je me sens un petit peu... laisser aller intellectuellement.
Un petit peu. Trop solide.
Je suis comme, OK, là, je fais preuve un peu de paresse intellectuelle, mais ça me fait relaxer, ça me fait oublier des trucs, puis c'est ce qui est confortable chez les gens aussi. Tu sais, on aime ça, oublier notre vie, puis genre, juste être comme...
Mais quand tu regardes ce qui se passe en politique, exemple, aux États-Unis, est-ce que ça vient solliciter ta paresse intellectuelle ou ton désarroi?
Mon désarroi, je pense. Je trouve ça vraiment très déprimant, là. Tout ce qui se passe, en fait. En tout cas, il y a plein de points qui sont très, très déprimants dans la société actuelle. Mais c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est comme quand je lis un roman, d'un grand auteur, là, après ça, quand j'ai fini de lire ça, je suis comme, ah, ça m'a tellement. Ça, là, ça a stimulé mon cerveau, puis c'était difficile à lire. C'est plus difficile de lire ça que regarder une série moyenne. Sauf que je me sens vraiment plus vivante après, puis genre, je pense que ça va me servir, tu sais, comme dans ma façon de regarder les choses. Fait que c'est comme...
Ben, une bonne manière pour se sentir vivant, c'est d'écouter ta musique aussi.
OK.
Il y a une chanson, moi, qui m'a accroché dès la première écoute. Les ferrofluides fleurs. Est-ce que je l'ai dit comme il faut?
Oui.
De Clopelgag. On l'écoute en entre nous.
J'ai percé mes paupières pour regarder.
Claude Pelgag, les ferrofluides de fleurs.
Oui.
J'ai tellement eu peur de m'enfarger en le disant que je l'ai répété toute la nuit.
C'est un bon exercice.
C'est un très, 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 très bon exercice. 2019, il reste seulement qu'un spectacle au programme.
Ouais, j'ai terminé ma tournée.
Parce qu'il y en a eu des spectacles en 2018.
Il y en a eu, en fait, la tournée de ce deuxième album-là, c'est comme plus de 200 spectacles un petit peu partout dans le monde.
C'est beaucoup.
C'était une grosse année chargée, épuisante. Puis là, je suis comme prête à juste un peu me reposer un petit peu, puis comme recommencer à écrire, en fait. J'ai vraiment hâte de recommencer à écrire, puis voilà.
Parce qu'on se fait toujours passer l'image de l'artiste qui rentre dans ses terres pour aller créer, pour aller se ressourcer. Mm-hmm. Mais un moment de vacances pour rien faire aussi, ça existe dans vos vies, vous autres?
Et c'est vraiment rare. Moi, je pense que ça m'est arrivé comme une fois, c'était avant la sortie de mon deuxième album.
Ouais.
Je suis comme partie en Islande, comme sur le pouce, faire le tour de l'île en camping.
Vite, vite, vite.
Puis ça m'a comme complète. Tu sais, c'est rare les moments où.
Mais c'était bon ou c'était déstabilisant?
C'était extraordinaire, en fait. Ça m'a fait un bien fou. Tu sais, sans réseaux sociaux, sans téléphone, tu sais, pas trop de courriels, puis ces trucs-là. C'est comme. On est tellement habitués en ce moment à comme être sur nos courriels tout le temps, à nos textos, à être joignables 24 heures sur 24. Puis il y a quelque chose de comme. Qui prend une grande place dans le cerveau, là, je pense, ouais. De préoccupation, là, de est-ce que j'ai reçu quelque chose? Puis qu'avant, je pense qu'on avait moins, tu sais, ouais. Parce qu'on savait comme plus prendre du repos, peut-être.
On prenait nos messages en rentrant à la maison, en ouais. Écoutant le répondeur, puis déjà le répondeur, c'était déjà ça de plus.
Oui, c'est ça.
Il fut un temps où si on n'était pas là, on n'avait pas de téléphone.
Mais c'est ça. Mais tu sais, c'était cool quand même, j'imagine, là, tu sais. Fait que c'est devenu un peu difficile, là, de juste ouais. Comme être en paix, puis. C'est trouver qu'est-ce que j'aime faire quand je suis quand j'ai rien à faire.
Mais aller ailleurs pour se reposer, pour se ressourcer, ouais. Pour rien faire, et aller ailleurs pour travailler, c'est deux choses. Mm-hmm. Quand Claude Pelgag va ailleurs pour donner des spectacles, t'es allé jusqu'au Japon.
Ouais. Ben.
En quoi tu peux te retrouver dans un endroit comme le Japon? On peut pas dire que c'est un grand site de la francophonie mondiale.
Il y a beaucoup de francophiles au Japon, par contre.
Ah oui.
Ouais. Avant d'y aller, tu sais, on n'est pas allé pour rien non plus là. C'est parce qu'il y avait quand même, il y avait un intérêt autour de mes deux albums. En fait, même mon premier album, il avait été critiqué, il en avait parlé dans les médias un petit peu. Puis j'en ai vendu des albums là-bas là. Tu sais, c'est comme pour sans que je m'en rende compte en fait. Tu sais.
Ben il y a de quoi d'étonnant là-dedans. Je pensais pas que le Japon était francophile.
Ouais, c'est vraiment surprenant. Tu sais, aller là-bas, c'était une expérience extraordinaire. Je pense que c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée dans la vie, là. Puis, tu sais, c'est comme un gros choc culturel aussi, là. Tu sais, c'est comme complètement différent des paysans. C'est vraiment magique. Puis, je suis arrivée là. Il y a eu un moment où on faisait genre d'entrevue conférence. Fait que les gens posaient leurs questions. Puis, il y avait un journaliste qui est très fan de ma musique, en fait. Puis il y avait ma merch, il y avait mon chandail.
Oui.
il était venu me voir à Nantes, en France, du Japon, pour me voir, quelques années auparavant. Puis lui, il connaissait très bien le truc, fait que c'est lui qui menait l'entrevue. Puis il avait comme fait des diapositives, là, ben, t'sais, genre projections avec genre d'études de tout ce qu'il trouvait qui me reliait au Japon dans tout ce que je faisais. J'étais comme, OK,
un niveau
ça va loin.
Un niveau d'expertise auquel t'es pas vraiment
ouais,
habitué.
Là, j'étais comme, il voyait des signes dans lesquels il n'y en avait pas, tu sais. Puis là, il y a un monsieur aussi, un genre de professeur de français dans une université à Tokyo qui avait traduit tous mes textes. Puis là, il venait me voir, il était comme, Claude, est-ce que cette phrase, est-ce que ça veut dire que c'est un livre de région du charme qui, lors de son passage en Gaspésie, dont tu es native, et qui... Là, j'étais comme, non! Tu sais, il voyait comme plein de signes. Puis, mais tu sais, ils sont très dans la réflexion, là, aussi, là-bas.
Oui,
c'est fait.
Ils sont dans le cérébral, là.
Ouais, mais je trouvais ça cool, quand même. Tu sais, j'étais, waouh, il y a un vrai intérêt que plein de journalistes ici, là, quand ils critiquent ton album, ils parlent presque pas de la musique, là. Ils parlent... Il parle de la pochette, il parle un petit peu de l'instrumentation, mais il parle très rarement, ça va très rarement en profondeur.
Peut-être que la première thèse qui sera écrite sur toi, ce sera un Japonais ou une Japonaise qui va le faire.
Peut-être.
mais le contact avec le public là-bas, ça doit être spécial aussi. Ça doit pas être la même connexion. ils ont beau connaître tes textes, ils ont beau connaître ta musique, est-ce que c'est quand même des humains différents?
Ouais, mais c'est des humains quand même. Puis tu sais, la musique, elle parle. Puis je pense que dans ma musique aussi, tu sais, ça repose pas juste sur les textes. Là, il y a comme quelque chose dans les mélodies, dans l'instrumentation qui fait que tu peux apprécier sans comprendre de quoi ça parle aussi.
En fait, c'est risque que t'en retires.
Ouais, c'est ça.
Sans trop se poser de questions.
Ouais, ça s'est bien passé. Je pense que ils sont très polis là quand même. Fait que tu sais, c'est pas genre, ils sont pas comme waouh. Mais ils sont très polis, ils sont comme
réservés et attentifs,
mais très intéressés. Puis moi, je trouve ça me donne beaucoup d'espoir en l'humain là, quand je vois.
Ben parce qu'un spectacle de Claude Pelgag ici, c'est souvent événementiel.
Ouais.
Il y a des processions avant, puis il y a des personnages qui arrivent sur scène. Des fois, il y a même des tontes à la fin du spectacle. Ça arrive comme au Club Soda, il y a une couple d'années.
Mais ça, c'était pour le camp.
Oui, mais dans le cadre de spectacle. Ouais. Est-ce que quand tu arrives là-bas, c'est le même genre de bulle un peu folle que tu amènes avec toi, ou forcément, à cause du déplacement, tu es obligé d'y aller d'une manière un petit peu plus régulière, disons?
C'est plus régulier, mais c'est comme, en fait, le spectacle qu'on traîne en tournée un peu partout ailleurs, ouais. Dans le sens que le spectacle que tu vas voir à Montréal, oui, c'est plus événementiel. Le spectacle que tu vas voir, mettons, je sais pas, là, tu sais...
Parce que je disais...
ailleurs, au Québec, plus en région, ben, tu sais, ça va être une plus petite formule. Ben, c'est la même formule de musicien, mais...
Mais tu perds pas l'occasion de faire des affaires étranges. Exemple, Santa Teresa l'été passé.
Ouais, mais ça, c'est un événement aussi.
La messe avec Marc Hervieux.
Ouais.
Monseigneur Marc Hervieux qui arrive à la fin.
Ça, c'était vraiment cool comme spectacle aussi, mais justement, c'était comme fait sur mesure pour ce festival-là qui nous avait comme fait... donner carte blanche pour le spectacle dans l'église. Fait que là, j'ai comme saisi l'occasion pour faire comme, oh, on va réinventer la messe, puis on va la dédier, plutôt que la dédier à Dieu, là, on va la dédier à la musique, tu sais, genre comme si c'était comme une divinité, là, la musique.
Et donner carte blanche à Claude Pelgag, c'est donner un paquet de 52 cartes. Hein? Il y a bien des options.
Oui. mais faut c'est ça, ouais.
Ouais.
Faut les moyens pour le réaliser. Fait que moi, quand un festival me donne des moyens financiers pour réaliser un truc sur mesure, c'est sûr que je dis oui, là.
Ben, je te remercie beaucoup d'être passé faire un petit tour aujourd'hui.
Merci beaucoup.
De nous avoir accordé de ton temps, parce que je sais qu'avec les vacances qui approchent dans ton cas, là, ton temps, il est précieux. Claude Pelgag, un gros merci. On va se laisser sur une autre belle chanson de ton dernier album, la chanson Incendie.
Mm-hmm.
Claude Pelgag, bye bye.
Salut.
Tes doigts me tassent, je ne peux plus parler. Tes bras m'apaisent, je peux respirer. Mon corps est lourd, tu sais le porter.